Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h à Bamako, même heure à Kita sur la radio Kourougan. Bonjour et bienvenue, voici les titres de ce journal. Au Mali, des hôpitaux, centres de santé et autres services sanitaires publics sont devenus des nids de l'insalubrité malgré les efforts des services hygiéniques. Ces derniers déplorent surtout le comportement des usagers dans ces structures. Les relations restent toujours tendues entre la CEDEAO et les États de l'AES. Lors de son 65e sommet à Abuja, au Nigeria, l'organisation s'est exprimée sur les éventuelles conséquences du retrait des trois pays de l'AES. Les 22 joueurs sélectionnés pour les JO Paris 2024 sont connus depuis hier. Ils devront se donner corps et âme pour défendre les couleurs nationales. La réaction du sélectionneur malien dans cette édition. Voilà pour le sommaire à la présentation à Assetou Kanté. Gaye Kanté est à la technique. Les structures sanitaires ne riment pas avec l'insalubrité. Pourtant, le phénomène est persistant dans des centres de santé. Cela malgré les efforts des services hygiéniques dans les hôpitaux. Selon les responsables de certains hôpitaux, des mesures comme l'aménagement des espaces pour la cuisine et la lessive ont été prises pour la propriété des structures. De leur côté, les accompagnants des patients disent faire de leur mieux pour garder ces endroits propres. Reportage de Aboubakrine Ag.
Ces échanges se passent entre un hygiéniste au service de la pédiatrie de l'hôpital Gabriel Touré et une accompagnatrice des malades. Comme cette dame, nombreux sont les accompagnants à salir les structures sanitaires selon ses témoins rencontrés à l'hôpital de Sikasso et celui de Gabriel Touré à Bamako.
La santé est basée sur l'hygiène. Même chez nous, on n'aime pas la saleté.
L'hôpital Gabriel Touré est sale. Tout le monde vient dans un hôpital. Il faut qu'on veille à l'usage de cet espace pour le bien-être de tous.
Ce sont les accompagnants qui amènent des saletés ici. Si l'hôpital n'est pas propre, pas guérir les malades, c'est impossible.
Nous faisons la vaisselle à côté du robinet et verser l'eau dans les fossés.
De leur côté, les services d'hygiène disent mettre tout en œuvre afin de garder les hôpitaux propres. Ils invitent les patients et les chefs de service à plus de collaboration pour un meilleur respect des règles d'hygiène. Zoumana Doumbia du service d'hygiène du CHU Gabriel Touré.
Nous avons un problème financier à l'hôpital Gabriel Touré. Il y a les accompagnants qui contribuent beaucoup à la production des déchets à l'hôpital Gabriel Touré. Vous pouvez aller voir que les chassés plastique en eau rentre n'importe comment à l'hôpital Gabriel Touré. D'abord, si l'hôpital est sale, il faut savoir que le résultat attendu de la santé, vous ne roulez jamais.
Notons que c'est le même constat à l'hôpital régional de Gao et dans plusieurs hôpitaux des capitales régionales.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook, notre compte X. L'occupation anarchique du domaine public sur les axes de circulation continue de préoccuper les usagers de la route et les responsables de la ville de Bamako. Un défi à relever selon certains responsables. C'est dans ce cadre et sur ordre de la délégation spéciale de gestion de la mairie du district qu'une opération de déguerpissement est en cours dans la capitale malienne. Vendeurs et clients se sont prononcés dans ce reportage de Mamadou Samasekou.
Ils sont entre autres boutiquiers, revendeurs de carburant, de fruits, de légumes et articles divers. Même s'ils sont conscients de violer le code de la route, nombreux sont parmi eux qui affirment ne pas avoir d'autres alternatives.
Au lieu de ramasser nos marchandises, ils peuvent juste nous expliquer ce qu'il y a lieu de faire.
Il n'est vraiment pas facile pour nous de vider les lieux, à moins que les autorités nous offrent soit du boulot, soit une autre place dans le marché.
La direction urbaine du Bon Nord et de la protection de l'environnement qui exécute cette opération affirme avoir d'abord procédé à l'information et à la sensibilisation des occupants avant cette phase du déguerpissement. Commissaire divisionnaire Mourou Diara, directeur de DIBOP.
Nous avons distribué des copies à des boutiquiers, à des marchands ambulants pour les expliquer l'inconvénient même de l'occupation du domaine public. Chaque fois, si on les chasse, ils reviennent encore. Souvent, on prend leurs marchandises, on paye des contraventions. Tant que l'incivisme va durer, l'opération de déguerpissement va continuer. Mon personnel est déterminé.
Pour des clients, bien vrai que force doit rester à la loi, il est quand même nécessaire de prendre en compte les soucis des uns et des autres.
La personne peut être victime d'accidents de la circulation.
Ils sont très très exposés. Ramasser aussi les marchandises des gens, je ne pense pas que ce soit une solution. Ce que moi je propose, c'est de toujours sensibiliser.
Les responsables de la mairie du district de Bamako rappellent que l'un des objectifs de cette opération est surtout la sécurité des revendeurs eux-mêmes.
Reportage de Mamadou Samasekou. Je vous l'annonçais dans les titres. Le 65e sommet de la CEDEAO s'est tenu dimanche à Abuja, au Nigeria. Cette rencontre intervient au lendemain du sommet des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES. À l'issue des travaux, la CEDEAO s'est dite ouverte au dialogue avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elle a désigné des facilitateurs afin de continuer le dialogue avec la Confédération de l'AES. Cependant, l'organisation ouest-africaine est revenue sur les éventuelles conséquences du retrait de ces trois pays. Les détails avec Moussa Malé Sissoko.
Lors de ce sommet, le président de la commission de la CEDEAO a rappelé que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont notifié le 29 janvier dernier leur intention de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Selon lui, la désintégration de ces trois pays perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais également elle aggravera l'insécurité dans la région. Pour ce diplomate gambien, le retrait de ces trois pays de l'AES serait une perte de millions d'euros en investissement, car dit-il, ce retrait pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO. Selon Omar Ali Touré, les ressortissants de l'AES vont également devoir obtenir des visas pour voyager dans la région, sans préciser quand la mesure pourrait prendre effet. Ce dimanche 7 juillet, l'organisation ouest-africaine a désigné les présidents Bassirou Diomaye Faye du Sénégal et Faure Gnassingbé du Togo comme ses facilitateurs auprès de l'AES.
Sport football, la liste des 22 joueurs retenus par le sélectionneur Alou Badra Diallo des Aigles de moins de 23 ans pour les Jeux Olympiques Paris 2024 a été rendue publique ce lundi. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a animée au siège de la FEMAFOOT. Alou Badra Diallo, sélectionneur des Aigles de moins de 23 ans, s'est dit conscient des défis, mais confiant quant à la bonne participation de ses poulains aux Jeux Olympiques. Il est au micro de Khalifa Goïta.
Ce qui justifie le choix, nous avons opté, mon encadrement et moi, c'est la continuité. Parce que nous avons joué la CAN avec un groupe qui était là, en espérant que ce groupe soit renforcé par d'autres joueurs. Ensuite, ce groupe est resté compétitif. C'est le groupe-là qui a joué tous les matchs en gros que nous avons eu à jouer. C'est un groupe qui se connaît. Il y a aussi une très bonne ambiance, un bon esprit. On a pris les joueurs qui sont compétitifs. Bah, c'est leur chance aussi, c'est ce que je l'ai dit. Il faut saisir cette chance. Nous avons envie d'avoir l'objectif. Quand vous êtes responsable, il faut prendre des décisions responsables. Le groupe du Mali, c'est une poule difficile. Au niveau des jeunes, le Mali a toujours sa carte. C'est un message à nos jeunes. Il faut qu'ils savent qu'ils ont une lourde responsabilité. Ils n'ont pas le droit de faillir.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Dans la rubrique Zoom sur d'aujourd'hui, notre chroniqueuse Adama Amadou Aïdara nous parle de la fluidité de la circulation à Bamako durant les vacances.
On se demande très souvent si ce sont les écoliers qui provoquent tous ces embouteillages dans la capitale. Quand bien même depuis plusieurs jours déjà, on n'a plus besoin de se réveiller très tôt pour éviter les bouchons comme a-t-on l'habitude de le faire. En tout cas, vous êtes nombreux à faire la remarque le matin quand vous sortez. La circulation est de plus en plus fluide, surtout au niveau des trois ponts de la capitale. Des trajets dont on passait des heures à parcourir sont maintenant faits en un laps de temps. Des usagers sont si contents de voir la circulation si fluide qu'ils souhaitent la prorogation des vacances. Mais attention, cette fluidité des axes routiers n'est pas effective partout à Bamako. Certaines voies sont abonnées aux embouteillages, notamment la route de Yirimadjo, en passant par Nyamana et Djalakorobougou sur la route de Ségou. Sur place, des usagers ne cachent pas leur ras-le-bol.
Et c'est sur cette rubrique que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez écouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kunafuni au 37 321. C'est gratuit. Vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, vous aurez la version Bambara de ce journal. Une présentation de Idrissa Sakho.
À vous parents, papa et maman, ces messages vous est adressé.
Vous devez avoir les réflexes de déclarer votre enfant dès sa naissance votre enfant doit avoir un acte de naissance.
Déclarer un enfant à la naissance est un acte de grande importance et un geste de bon citoyen.
Déclarer un enfant à la naissance est le premier des droits de cet enfant, puisque c'est ce droit qui ouvre l'accès à tous les autres.
Sans acte de naissance, votre enfant n'existe pas devant la loi.
La délivrance d'un acte de naissance est gratuite à la mairie.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas aller à l'école plus tard.
Si les parents ne déclarent pas l'enfant à la naissance, il ne pourra pas bénéficier des programmes de santé. Il sera exclu de bien d'autres avantages encore.
Sachez également que les parents ont un délai maximum de 1 mois, c'est-à-dire 30 jours pour déclarer la naissance de leur enfant.
Passé ce délai, il faudra recourir à un jugement supplétif qui peut prendre plus de temps et d'argent.
Déclarer son enfant à la naissance, c'est lui donner un bon départ dans la vie.
Ceci est un message de la Direction nationale de l'État civil en partenariat avec l'UNICEF grâce au soutien financier de l'Agence italienne pour la coopération au développement.
En 2023, plus de 6500 migrants maliens ont été accueillis à l'aéroport Bamako-Senou et environ 7800 ont séjourné à la maison des migrants toujours à Bamako. C'est dans le cadre du programme de retour volontaire des migrants organisé par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Mais le processus paraît long pour certains acteurs. Selon l'OIM, c'est dû à d'énormes facteurs dont le profilage des migrants et le financement du programme. Suivons ce magazine qui rentre dans le cadre des production des médias de la Fondation Hirondelle, Studio Tamani au Mali, Studio Kalangou au Niger et Studio Yafa au Burkina Faso.
Parmi les migrants qui sont rentrés en 2023, de nombreux sont des ressortissants de la région de Kaï. Tchekoro Samson Kone, chef du sous-bureau de l'OIM à Kaï, au Mali, explique le processus.
Nous avons des FMP, des focal points au niveau de la frontière Bouki qui fait frontière avec la Mauritanie, qui nous informe que ces migrants ont été expulsés et qu'ils désirent rentrer dans leur pays volontairement. Donc, nous sommes contactés. Nous organisons les mouvements de la frontière à Kaï, qui soit Burkinabé, Nigérien, Tchadien, Guinéen, Nigérien et autres. Donc, une fois que ceci arrive, on fait un profilage.
Cela peut prendre combien de temps?
Ça dépend aussi des différents consulats ou ambassades. Par exemple, il y a des pays où, par exemple, la Côte d'Ivoire exige souvent la présence physique du migrant pour attester que c'est un Ivoirien. Par contre, d'autres sont beaucoup plus flexibles dans leur démarche.
Cette attente peut être longue pour des migrants. C'est le cas de certains Guinéens, Burkinabés et Ivoiriens qui séjournent à la maison des migrants de Kaï en attendant de pouvoir rentrer dans leur pays respectif. Parmi eux, un couple avec leur petit garçon de moins de 2 ans. Nos tentatives pour les faire réagir sont restées vaines, faute d'autorisation accordée par l'OIM. À Kaï toujours, il y a aussi le Centre d'information et d'orientation des travailleurs migrants, CIOM, de la région. Ses responsables soulignent qu'ils sont un trait d'union entre les migrants et l'OIM. Alassane Yattara, animateur au CIOM.
L'aide que nous apportons, c'est une aide d'orientation. Dès qu'on les reçoit, on les enregistre. Et maintenant, à partir de l'enregistrement, maintenant, nous savons ce qu'ils veulent. Et maintenant, nous avons des services techniques maintenant, vers qui il faut les orienter. Et le principal acteur même de l'orientation, c'est l'OIM. Mais aussi avec les autres services techniques comme l'INPS, comme aussi la DRT, la Direction régionale du travail.
Une fois de retour dans leur pays respectif, l'OIM soutient aussi des migrants pour faciliter leur réintégration, explique Tchekoro Samson Kone.
Tous les migrants qui sont, par exemple, des CAI sont déjà identifiés et sont orientés vers les bureaux des CAI. Nous faisons ce qu'on appelle le counseling. Quelqu'un vient avec un projet, je veux faire pratiquer l'agriculture, c'est ce que je connaissais avant de passer à la migration. J'étais sur l'élevage ou bien j'étais sur le commerce. En fonction des projets proposés par les migrants, donc nous organisons la formation d'abord. Nous faisons la formation avec les services techniques ici, la Direction régionale de l'agriculture pour tout ce qui est activité liée à l'agriculture et au maraîchage.
Gaoussou Koulibaly est un ancien migrant malien. Après son retour de l'Algérie, il a été soutenu par l'OIM et gère aujourd'hui son entreprise.
Avant de prendre le chemin de la migration, j'étais maintenancier en informatique. Quand je suis revenu, je leur ai dit que je m'y connaissais en réseau également. L'OIM a financé une formation pour moi en réseau et G45 avec l'ONG Autre Monde. Mon patron a beaucoup apprécié ma manière de travailler. Après la formation, il a voulu qu'on continue à travailler ensemble. Il m'a même aidé à mettre en place ma propre entreprise.
Selon l'Association des Maliens expulsés, cet accompagnement de l'OIM n'est pas à hauteur de souhait pour certains migrants. Ses responsables soulignent qu'après cette formation, certains reviennent vers eux pour bénéficier d'une autre aide.